Bonsoir à tous et à toutes, et merci donc d'être venus ici ce soir ou à distance. C'est la sixième année, si j'ai bien compté, que existe ce séminaire, je ne sais pas comment l'appeler, indépendant, à défaut de dire libre ou peut-être émancipé. Je sais que à partir en gros du mois de juillet l'année dernière, je n'ai imaginé comme possibilité pour continuer ce séminaire que ce titre-là, « Faut-il s'émanciper ?». Je ne vais pas faire beaucoup de préambules, parce que je crois que si je commence à faire des préambules, je ne ferai que ça. Et je vais entrer assez vite dans le vif du sujet, et je me dis que ce qui aurait pu ou dû venir en guise de préambule, reviendra dans les questions ultérieures. Juste, je pense que dans cette phrase très simple, faut-il s'émanciper, si je parviens au bout de 6 séances à un tout petit peu clarifier ce que émanciper veut dire, j'aurais déjà fait beaucoup de choses. Quant au « faut-il », qui est dans le titre, je ne sais pas si je le traiterai vraiment. Voilà. C'est vous qui me direz. Alors donc, trêve de préambule, je me suis proposé de mettre deux phrases en exergue de tout le séminaire, et ensuite je vous donnerai une phrase en exergue de cette séance. Dans les phrases en exergue de tout le séminaire, voici la première. Je vous dirai, après l'avoir lue, de qui elle est. Il est curieux de voir combien ceux-là même qui s'opposent avec passion à toute socialisation des moyens de production apportent souvent, sans en avoir conscience, leur aide et leur soutien à la socialisation de l'homme qui est bien plus dangereuse. Il est curieux de voir combien ceux-là même qui s'opposent avec passion à toute socialisation des moyens de production apportent souvent, sans en avoir conscience, leur aide et leur soutien à la socialisation de l'homme qui est bien plus dangereuse. C'est une phrase d'Anna Arendt que j'ai trouvée dans un texte intitulé « Religion et politique, quatrième partie » et que vous pouvez trouver à la fin d'un livre composé sous le titre « La nature du totalitarisme ». Ce n'est pas la même chose que le livre d'Arène « Qu'est-ce que le totalitarisme ?» C'est un autre ensemble de textes. Voilà, ça a été publié en 1990 pour la première fois et en 2018 par la traduction que j'ai prise. Il est curieux de voir combien ceux-là même qui s'opposent avec passion à toute socialisation des moyens de production apportent souvent, sans en avoir conscience, leur aide et leur soutien à la socialisation de l'homme qui est bien plus dangereuse. Seconde phrase, en exergue de tout le séminaire, plus un homme est libre de tout préjugé, moins il sera adapté à la vie sociale. Plus un homme est libre de tout préjugé, moins il sera adapté à la vie purement sociale. Je crois que j'avais oublié l'adverbe. Et c'est encore une phrase d'Anna Arendt, cette fois dans « Qu'est-ce que la politique ?» qui a été publié, je crois, en français pour la première fois en 1993. « Plus un homme est libre de tout préjugé, moins il sera adapté à la vie purement sociale. » Bon, je pense que ces phrases, d'une certaine manière, font écho au séminaire premier de la série de ces six années que j'avais intitulé de l'espace privé à la sphère sociale, hein, avec la distinction entre espace privé, espace public, sphère sociale. Voilà, pour l'exergue général. Et l'ambiance, finalement, que ça implique. Alors, pour cette séance, j'ai choisi un autre texte que voici. « Ceux qui parlent en faveur de la liberté et en même temps critiquent l'agitation sont des hommes qui veulent récolter sans labourer la terre. Ils veulent la pluie sans tonnerre ni éclair. Ils veulent l'océan sans le terrible rugissement des vagues. Ceux qui parlent en faveur de la liberté et en même temps critiquent l'agitation sont des hommes qui veulent récolter sans labourer la terre, ils veulent la pluie sans tonnerre ni éclair, ils veulent l'océan sans le terrible rugissement des vagues. Alors cette phrase a été prononcée et écrite en 1847 par un ancien esclave noir qui a bénéficié de l'émancipation et qui a été, pour la mise en place d'ailleurs de cette politique, sauf erreur de ma part, conseiller de Lincoln. Il s'appelait Frédéric Doulas et j'ai trouvé ce texte cité dans un livre dont je reparlerai dans le courant de ce séminaire, de Philippe Carle et Jean-Louis Comolli, Free Jazz, Black Power, qui a été pour la première fois édité en 1971. Je l'ai tiré, j'ai trouvé ce texte de Frédéric Doulas dans le chapitre de ce livre de Carl et Comolli qui s'intitule « Ce que disent les blues ». Voilà pour les exergues, l'exergue pardon, de ce soir. Voilà. La liberté, c'est la pluie, mais avec tonnerre et éclair. C'est l'océan, mais avec le terrible rugissement des vagues. Alors, je commence. Dans un livre que j'ai amené ici, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit assez peu trouvable en librairie, bien que pas ancien du tout, il a été édité en 2021, Aurélien Berland, Terre et Liberté, aux éditions de La Lenteur. L'auteur donc analyse le concept de liberté propre à ce qu'il appelle, comme d'autres d'ailleurs, la modernité occidentale. Et il montre, en tout cas c'est ce que dit la quatrième de couverture, il montre que ce concept se lie à un idéal d'émancipation comme arrachement à la nature. Donc l'idée du livre, c'est qu'il y a une mésinterprétation de la notion de liberté par au moins la modernité occidentale, dans la mesure où cette modernité ou cette culture occidentale entend ou entendrait la liberté comme un idéal d'émancipation, lui-même pensé comme arrachement à la nature. Et Aurélien Berland décèle sous cet idéal la vieille aspiration aristocratique à la délivrance. Donc il essaye de construire une idée ou de faire penser à une idée de la liberté qui serait distincte ou distinguée de la notion de délivrance. Être libre, ce n'est pas être délivré de tâches en particulier. Donc il montre que le concept occidental de liberté aura été lié à un idéal d'émancipation comme arrachement à la nature, et il décèle sous cet idéal la vieille aspiration aristocratique à la délivrance ou le désir de mener une vie déchargée des tâches par hypothèse pénible de la vie quotidienne. Alors cette critique d'Aurélien Berland, je n'y reviens pas, je la pose une fois pour toutes dans ce séminaire, elle me semble parfaitement bienvenue. J'en fais une base, si vous voulez, de ma réflexion. Le fond, me semble-t-il, au fond je pose cette thèse pour commencer, voilà, une thèse. Le fond de toute question concernant les existences humaines n'est pas, à mon sens, la libération à l'égard de toute tâche, mais c'est la distribution, la répartition et le partage de ce qu'il y a à faire et des produits de ce faire. Pour moi, c'est ça le fond de l'existence humaine, c'est la distribution, la répartition et le partage de ce qu'il y a à faire et des produits de ce faire. Le fond de l'existence, je n'ai pas dit que l'existence se tenait juste là, le fondamental. Cette affaire, la distribution, la répartition, le partage de ce qu'il y a à faire et des produits de ce faire, cette affaire peut évidemment prendre une dimension politique. On peut dire que c'est une question politique, on peut en faire une question politique, mais je crois qu'elle n'est pas en soi, je pose qu'elle n'est pas en soi immédiatement de cet ordre-là. La distribution, la répartition et le partage de ce qu'il y a à faire et des produits de ce faire n'est pas immédiatement une affaire politique, c'est la thèse que je pose. Elle est d'abord une affaire économique. Autrement dit, l'économie fait le fond de l'existence humaine. Cela veut dire que si nous voulons comprendre ce que c'est qu'exister, nous ne pouvons nous dispenser d'analyser ce qui se passe dans le champ de l'économie, lequel champ n'est pas du ressort du logos, mais comme le dit le mot lui-même, de la nomos. Alors je parle grec, puisque en fait, les mots autour desquels j'ai envie de réfléchir sont d'origine grecque, même s'ils ne sont pas nécessairement grecs eux-mêmes, tant qu'on ne les trouve pas attestés forcément, écologie, économie. Économie, oui, c'est un mot qu'on trouve dans la vieille langue grecque, écologie, non. C'est un mot du 19e fabriqué sur un modèle grec. Mais quand même, dans écologie, vous avez logos, dans économie, vous avez nomos. Donc je pose une thèse, évidemment, qui ne va pas de soi, pour sûrement beaucoup d'entre nous, mais mon axe de raisonnement sera celui-ci, c'est que le fond, donc au fond, ce que je viens de dire, c'est que le fond de l'existence humaine, je le définis comme économique et non pas comme écologique. Alors, c'est une thèse qui va me valoir, évidemment, beaucoup de remarques, mais je n'ai pas dit pour autant que l'écologie était quelque chose d'inintéressant. Hein. J'ai le fond. J'ai dit récemment, où j'étais invité à parler, que l'être humain est un animal économique et non pas un animal écologique, et que c'est tout le problème. Justement. Bon, on y reviendra certainement. Partant dès lors de l'idée que l'homme est un animal technicien qui ne peut pas ne pas toucher au monde, ni, cela revient au même, vivre seulement des offres de la nature, je pense que bon, je m'appuie sur toute une série de travaux. Disons que la source serait les travaux anthropologiques de Leroy Gourhan, qui a été lu et relu par exemple Michel Guérin. Je pense aussi que si je lis Aristote, enfin ça m'est arrivé de l'écrire, qui a dit que l'être humain était un animal mimétique, et encore plus clairement que l'être humain était un animal politique, qui n'a pas dit que l'être humain était un animal technicien, mais c'est, je pense, la phrase non dite, celle-là, qui fait tenir les deux autres. Hein, que l'être humain est un être qui ne peut pas ne pas opérer dans le monde. Nous sommes faits pour, par nos mains, par le type de corps que nous avons, etc., outiller nos existences, être technicien. Donc je pars de ça. Je pars de l'idée que l'homme est un animal technicien, que par conséquent il ne peut pas ne pas toucher au monde, il ne peut pas vivre seulement des offres de la nature, et je pose sur cette base que l'économie est ce qui règle la production, la composition et la distribution des techniques que cet animal développe ou aura développé au cours de son existence. Or, ces règles de la production, de la composition et de la distribution des techniques que l'animal humain ne peut pas ne pas mettre en jeu, puisqu'il est animal technicien, ces règles ne sont pas nécessairement, c'est le moins qu'on puisse dire, chacun d'entre nous le sait bien d'expérience, ces règles ne sont pas nécessairement celles de la convenance, de la justice et de l'égalité. Donc l'animal technicien ne peut pas ne pas distribuer des techniques, composer des techniques, etc. Il le fait selon des règles. Ces règles, économie, c'est l'économie. Parce qu'on, fondamentalement, si vous voulez, c'est l'économie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'économie qui règle les conduites de l'animal technicien ne sont pas, à l'évidence, de l'ordre de la convenance, de la justice et de l'égalité. Aristote signalait déjà ce point dans sa politique lorsqu'il affirmait en substance, d'une part, que l'animal technicien avait à s'interroger sur l'utilité et la justesse des opérations qu'il menait. Alors je ne détaille pas, mais je suis en train ici de traduire à ma façon un passage de la politique d'Aristote avec des mots qui me semblent les plus ajustés au texte grec tel que je comprends. La justesse et l'utilité. Aristote dit, l'homme est un animal politique, il est fait pour se questionner sur quoi, se poser des questions sur quoi. Alors on traduit généralement l'utile et le nuisible, Et ensuite, le juste et l'injuste. Alors, je modifie un petit peu l'utilité et la justesse des opérations qu'il mène. Aristote disait déjà que cet animal avait ça pour... il fallait bien qu'il s'interroge là-dessus. La justesse et l'utilité des opérations qu'il menait, d'une part. Et il disait d'autre part que cette interrogation de l'animal technicien sur l'économie de ses opérations, au fond, est-ce qu'elles sont justes, est-ce qu'elles sont utiles, cette interrogation devait être l'affaire d'une activité particulière que les Grecs auront donc nommée pour nous politique. Qu'est-ce que la politique en première approche pour Aristote? C'est le nom de qui conviendrait, si vous voulez, à tous les espaces d'interrogation sur l'économie des techniques, pour résumer ma lecture d'Aristote. Mais dans un autre passage de la même source, la politique toujours, Aristote faisait du despotisme un concept non pas premièrement politique, mais premièrement économique. Donc Aristote dit bien que l'affaire de la politique, c'est de mener des interrogations sur les conduites économiques de ce que j'appelle l'animal technicien. Par ailleurs, il dit que, donc, despote, qui pour nous est un mot politique, pour lui, c'est d'abord, c'est premièrement un mot économique. Je voudrais qu'on revienne, si vous voulez, sur cette proposition, c'est-à-dire sur le sens, on pourrait presque dire premier, du mot despote. Qu'est-ce que c'était donc un despote à l'époque, ou pour Aristote, si vous voulez? Alors, dans le texte, le détail, l'explicitation de cette argumentation, si ça vous dit, ça se trouve dans le premier chapitre de mon livre « De l'un à l'autre », le chapitre s'intitule « Le despotisme et barbarie », où j'ai donné les détails du texte, les références, etc. Je ne reprends pas ça ce soir, je résume simplement. Hein. Qu'est-ce que c'est un despote pour Aristote? C'est l'homme parvenu à se réserver ce que le texte grec appelle la dianoïa. Alors, dia, noïa, noïa, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, de l'intellectualité, de la pensée. Et le dia, ça serait à travers, je dirais que la dianoïa, je comprends ce mot-là comme signifiant la capacité ou le fait d'envisager quelque chose à faire et d'avoir l'initiative et de l'envisagement et du faire lui-même. Hein. Avoir des initiatives sur ce qui est à venir, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, pas tout de suite, mais plus tard. Voilà. Donc le despote serait celui qui sait réserver la dianoïa, cette capacité-là à prendre des initiatives, par exemple en matière économique, hein, en matière de quelles techniques on développe, comment on les distribue, à qui, etc. En supposant que ces questions ne sont pas tout de suite des questions politiques, qu'elles sont réglées avant d'être discutées. Elles sont réglées économiquement avant d'être discutées politiquement. Donc, dans cette affaire-là, il y a des despotes, disait Aristote, c'est-à-dire des gens qui se sont réservés la dianoïa, soit la capacité à envisager, à donner des perspectives, ou, si vous voulez, à initier. Je prends ce mot « initier » qui m'intéresse beaucoup, parce que Hannah Arendt lui fait un sort... je trouve magnifique. Enfin, mieux, pour être plus précis, si vous voulez, le despote, au temps d'Aristote, dans la langue d'Aristote, c'était celui qui, de fait, disposait de la capacité à envisager, à donner des perspectives ou à initier, qui disposait de cette capacité, je dirais, pour un autre. Mieux encore, je dirais que c'était celui qui disposait de cette capacité à la place d'un autre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un despote qui a la capacité de prendre des initiatives, il y a quelqu'un à qui cette capacité est retirée. La place de l'autre dans l'initiative, le despote est celui qui la retire. Il se la réserve. Alors, où se trouve cette disposition à initier? Le faire, dans la pensée grecque, si vous voulez, ou dans tout cas dans la pensée d'Aristote. Réponse, dans une part de l'oïkos. Une part de l'oïkos. Ce n'est pas tout l'oïkos. Alors, c'est un mot très compliqué. J'ai lu énormément de textes grecs pour préparer cette séance, notamment. Des textes de Xénophon, des textes d'Aristote, du pseudo-Aristote, de Platon, etc. Et partout où j'ai pu, je me suis intéressé à l'arrivée dans le texte de ce mot, de cette famille de mots, oikos, oikein, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a des tas de phrases extraordinaires qui sont très très mal traduites. Et je pense que cette façon d'avoir laissé la pensée qui est derrière nous, enfin qui nous a lancé, si mal traduite, n'est pas pour rien dans les difficultés à penser que nous avons aujourd'hui le monde d'aujourd'hui, à penser aujourd'hui le monde d'aujourd'hui. Bon, je tâcherai de clarifier un peu tout ça petit à petit. Donc, où se trouve la possibilité de disposer des initiatives, dans la production, la distribution du fer, etc., dans une part de l'oïkos, dans une part de ce que les Grecs appelaient oïkos, où réside et s'active, pardon, j'ai pris ma phrase pas comme il fallait, où se trouve la disposition, pas dans, je sais pas si j'ai bien, pas dans cette part de l'oïkos, où réside et s'active le couple homme-femme. Hein, donc il y a une part de l'oïkos dans lequel, qu'est-ce qu'il y a? Un homme, une femme et des enfants, dit en substance Aristote, c'est pas là qu'il y a despotisme. Le despotisme, il est dans l'autre part de l'oïkos, là où ne sont pas ensemble hommes et femmes. Je prends littéralement le texte. C'est tout. Avant d'en penser quelque chose, je le lis. Donc je lis ça. Où est-ce qu'il y a des despotes? Pas dans cette part de l'oïkos où réside et s'active le couple homme-femme, pas par conséquent dans l'attelage familial. Alors, attelage est une traduction d'un mot qu'on trouve chez Aristote, où il prend cette comparaison du joug commun, hein, je vais jouer sur ce mot, le joug commun, vous avez deux animaux qui tirent le même attelage, et en fait, pour que l'attelage fonctionne bien, il faut que ces deux animaux tirent également. Voilà ce qu'il pensait de la relation homme-femme. Il faut que ça tire également et dans le même sens. Et là, il n'y a pas de despotisme, dit Aristote. C'est pas là que le mot despote fait sens. Donc, pas dans la part de l'oïkos où réside et s'active le couple homme-femme, pas dans l'attelage familial, par conséquent, ni, ajoute le texte, dans la relation éducative. Bref, là où le despote peut se manifester, ça n'est pas dans le lieu de ce que j'appellerais la demeure. Je vais définir ce mot dans quelques secondes. Les remarques d'Aristote, me semble-t-il, dans les premières pages de sa politique, de son livre La Politique, nous obligent, le pourrait ou le devrait en tout cas, à construire une distinction entre demeure et domaine. Le domaine, c'est là où il y a voilà ce que je vous fais une proposition lexicale finalement. Hein. Le domaine, c'est là où le despotisme est possible, la demeure, non. Prenez cette phrase dans tous les sens. S'il y a despote, c'est qu'il n'y a pas demeure, mais qu'il y a domaine. S'il y a demeure, il n'y a pas de despote. Donc, si j'essaye de comprendre. Alors, sur cette base-là, je voudrais faire deux précisions qui vont en fait occuper la séance de ce soir. Une précision concernant le sujet que je suis en train d'aborder, en prenant de multiples précautions sur ce que je vais essayer de dire. Et la deuxième précision concernerait la méthode avec laquelle nous pouvons réfléchir, je dirais en général, et le sujet auquel je voudrais nous intéresser en particulier. Alors la précision sur le sujet, pour commencer. La distinction que je viens de vous suggérer entre demeure et domaine ne peut pas être littéralement d'Aristote, puisqu'elle est dite avec des mots d'origine latine et que Aristote parlait et écrivait le grec. ne pas penser. Donc, elle n'est pas littéralement, c'est pas quelque chose, je peux dire, Aristote a dit, je ne peux pas dire ça. Je construis une distinction avec des mots qui ne peuvent pas être littéralement ceux de l'auteur que je suis en train de lire, distinction entre demeure et domaine. Ne pas penser cependant à cette distinction entre demeure et domaine, ce serait aller de pair avec toute une contestation faite aujourd'hui volontiers du philosophe, d'Aristote, autrement dit. Bon, je vais me libérer en disant, il y a toute une partie du mouvement féministe qui attaque Aristote. Et je suis en train de dire que cette partie du mouvement féministe n'a pas lu Aristote précisément, c'est tout. Voilà. Et donc, aucune remarque a priori contre l'ensemble du mouvement féministe, hein, mais juste sur une partie du mouvement qui attaque Aristote et qui ne saisit pas, par conséquent, ce que j'essaye de formuler là en disant, mais attendez, au fond, pas littéralement, puisque les mots ne peuvent pas être prêtés à Aristote, mais au fond, chez Aristote, il y a bien une distinction de part de l'oïkos, et qu'on pourrait traduire en disant, ne confondez pas ce qui est l'ordre de la demeure avec ce qui est de l'ordre du domaine. Domaine, c'est dominion, domination, etc. Demeure, non. L'hypothèse de la phase générationnelle où nous sommes les uns et les autres aujourd'hui, c'est justement, enfin c'est une proposition de discussion pour ce soir, pour d'autres soirs, en tout cas pour ce soir, l'hypothèse de la phase générationnelle où nous sommes, c'est de prendre pour domaine ce que j'appelle ici demeure. Autrement dit, je pense que aujourd'hui, de manière dominante, nous confondons domaine et demeure. Nous n'arrivons plus, qu'on soit homme ou femme, hein, à penser qu'une demeure, ce n'est pas un domaine. Bon. L'hypothèse de la phase générationnelle où nous sommes, c'est de prendre pour domaine ce que donc je vous propose, au moins pour réfléchir ce soir, d'appeler demeure. L'hypothèse de la phase générationnelle où nous sommes, c'est de prendre donc pour domaine la demeure, pas nécessairement d'ailleurs un domaine où régnerait le despotisme proprement économique dont je viens d'essayer de distinguer le genre, encore que les effets du despotisme économique, aujourd'hui, appelons cela l'industrie et l'économie des médias, traversent à l'évidence désormais les murs de ce que Hannah Arendt appelait l'abri utile au grandissement des enfants. Hein, je veux dire que ce qu'on aurait pu dire être autrefois de l'ordre de la demeure. Alors, qu'est-ce que c'est la demeure? C'est là où il y a un homme, une femme et des enfants qui forment un attelage. Hein, je remonte le texte. Il n'y a peut-être plus de demeure, pour le dire de façon un peu brutale aujourd'hui, et ce qui reste de demeure, c'est de toute façon traversé par les influences du despotisme économique du domaine, hein, puisque nous recevons évidemment masse des informations, l'industrie des médias, etc. Nous ne sommes pas chez nous à l'abri des influences économiques. Voilà. Donc il n'y a plus de chez nous. Je pense que c'est un peu ça que disait en substance ou que voulait nous faire penser en substance Hannah Arendt. J'espère que je suis clair à peu près. Bon. Donc le domaine avec quoi on confond peut-être volontiers aujourd'hui la demeure, c'est pas un domaine où règne seulement le despotisme économique, c'est un domaine où règne ou régnerait, selon la pensée qu'on entend beaucoup, où règne ou régnerait un despotisme supposé plus général, plus large, principal en somme, et dont le bon nom serait patriarcat. C'est-à-dire que ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que dans les demeures, il y a de la domination, mais que cette domination, elle n'est pas pensée comme économique, elle est pensée comme patriarcale. Elle n'est pas nommée comme économique, elle est nommée comme patriarcale. Je voudrais discuter ou contester ce choix d'appellation, ou y faire réfléchir au moins. C'est en tant qu'elle serait patriarcale que la demeure est ou serait par nombre d'entre nous aujourd'hui confondu avec le domaine. C'est pas en tant qu'elle serait la cible d'un certain nombre d'opérations économiques au sens strict, mais c'est en tant qu'elle serait le lieu où régnerait une domination archaïque qui s'appelle ou qui s'appellerait patriarcat. Évidemment, le mot patriarcat attaque la notion de père. C'est linguistiquement inévitable. Ou plutôt, le mot patriarcat attaque le caractère archique de la notion de père. Patriarche. Patriarche. Archi. Le patriarcat est un mot qui attaque le caractère, avec lequel on attaque le caractère archique de la notion de père, c'est-à-dire l'idée qu'à ce nom-là, père, devrait être attaché et la valeur du commencement et celle du commandement. Alors, je suis en train de reproduire ici à votre intention une analyse de l'archi qu'on entend dans anarchie, par exemple. L'anarchie, c'est pas d'archi, littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire archi? Les monarchies, anarchie, patriarche, patriarcat. Alors, archi, il y a un livre paru en 2021 de Catherine Malabou, dont le titre, à mon avis, n'est pas le meilleur, Au voleur. Je trouve que le sous-titre est mieux, Anarchisme et philosophie. Et ce que conteste Catherine Malabou, c'est justement le fait que dès qu'on dit archi, on joint ce que je viens d'appeler et la valeur du commencement et celle du commandement. Hein, c'est-à-dire qu'il y aurait le premier qui serait fondé à commander. Voilà. Ou inversement, celui qui commande est toujours le premier, celui qui prend l'initiative, hein, etc. Donc, dans l'attaque à l'encontre du patriarcat ou l'utilisation du mot patriarcat comme mot négatif, si vous voulez, aujourd'hui, en fait, ce qui est probablement attaqué par là, c'est le caractère supposé archique de la notion de père. Et ce qu'on attaque, en fait, c'est l'idée même d'archi, hein, que la conjonction entre le commandement et le commencement serait quelque chose dont nous serions, il serait bienvenu que nous nous débarrassions. Je pense que c'est quand même assez la thèse, même si je simplifie, de Catherine Malabou dans son livre, donc sous-titré « Anarchisme et philosophie ». Où nous sommes, pas partout dans le monde, mais où nous sommes, les temps présents disent qu'il n'y a plus de sens à placer l'instance de la vie privée sous l'autorité d'un élément premier ou primordial, hein, qui est traditionnellement en droit le père, hein, qui était le seul à pouvoir parler en droit au nom de sa famille. Ça, c'est le patriarcat stricto sensu. Mais on n'en est plus là. Donc les temps présents disent qu'il n'y a pas de sens à placer l'instance de la vie privée sous l'autorité d'un élément premier ou primordial, car de toute façon, on généralise là, alors les mots que je vais dire disent tous quelque part la même chose, car de toute façon, il n'est pas de prince princeps le premier, il n'est pas de prince, il n'est pas de principe, il n'est pas de primauté, il n'est pas de monarchie qui puisse être considéré aujourd'hui comme légitime. Et pas davantage, par conséquent, celui qui quand même est encore nommé père dans la vie quotidienne, n'est-il par conséquent estimé fondé à commander ? En tout cas, à commander de sa seule autorité. C'est quand même une réforme importante des pays, on va dire, occidentaux, que l'instauration de l'autorité parentale conjointe, pour ce qui concerne la France, dans les années 70, si ma mémoire est bonne. Donc, ok, comme on dit. Mais cependant, l'opinion sur l'enjeu, cette fois, non pas matrimonial, mais éducatif, de l'accueil et de la conduite de l'enfance reste indécise. C'est-à-dire, dans nos temps qui protestent contre le patriarcat, les princes, les principes, les principautés, etc., il y a quelque chose qui n'est pas clair, il me semble, en ce moment, il me semble qu'on souffre de ça en ce moment, dans nos contrées, qui est, pour le dire vite, le statut de l'enfance. Voilà. Qui accueille les enfants, qui s'en occupe et est-ce qu'on peut commander aux enfants? Si on peut commander aux enfants qui ont été, qui ne sont pas nés de leur propre génération, qui ont été commencés, bah, ça rend quand même la question complexe. Qui est fondé à ça? Est-ce qu'on est fondé à commander aux enfants? Et si oui, qui? Et comment? Bon. Donc il y a quelque chose que je ne trouve pas clair du tout dans nos temps contestataires du patriarcat, qui est l'autorité, comment elle se règle, puisqu'il n'y a pas de principe paternel qui faille droit à soi seul, comment est-ce que ça se règle, la conduite de l'enfance? Nos temps, je crois, ne savent pas s'il doit s'agir, si c'est bien quoi, nos temps ne savent pas s'il doit s'agir d'approprier autrement l'autorité éducative, de la partager, d'en démultiplier la lieutenance. Alors, lieutenance, ça reviendra dans ce séminaire. Hein. Le lieutenant, c'est celui qui tient lieu. Hein. Le lieutenant, et c'est aussi dans tous les sens de l'expression en français, hein, le lieutenant. En fait, si on regarde concrètement comment les choses se passent, est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'au fond, aujourd'hui, la tendance, c'est que c'est pas seulement que l'autorité, si vous voulez, est autrefois paternelle et devenue une autorité parentale, donc pour les deux parents, c'est qu'il y a peut-être plus que ça, un émiettement de l'autorité, c'est-à-dire il y a quand même des éducateurs qui s'occupent des enfants, et pas qu'un peu dans la vie socialisée qu'on mène. Il y a les personnels des crèches, les personnels des maternelles, les instituteurs, etc., etc. Tous les parents savent bien de quoi je suis en train de parler, je pense. Bon. Où est l'autorité dans l'affaire? Donc je pense que nos temps ne savent pas si ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se jouer, qui serait bien que ça se joue, c'est de partager, d'approprier autrement l'autorité éducative, la partager, en démultiplier la lieutenance, ou bien si au fond il doit s'agir de restreindre, voire de dissoudre cette autorité même, en allant jusqu'à y faire participer l'enfance elle-même, notamment en reconnaissant à cette enfance un droit à la parole. Voilà qui me semble tout de même étonnant du strict point de vue lexical, en français du moins, puisqu'enfant veut dire dans cette langue, étymologiquement, qui n'est pas dans la parole. Ce que nous entendons dire ces temps-ci, ce que en tout cas moi j'entends dire ces temps-ci autour de nous, au sujet d'un droit des enfants, et que nous avons pu lire récemment dans le cadre d'une campagne d'affichage, en tout cas à Paris, est à interpréter, à mon avis, dans ce cadre. Alors, j'ai une note de bas de page, parce que je marche sur des œufs. Dans tout ce séminaire, je marche sur des œufs. Voilà. Mais bon, normalement, c'est un séminaire, donc c'est pour réfléchir. Alors, note de bas de page. La campagne sur le droit des enfants à laquelle je pense, une campagne d'affichage que j'ai vue dans le métro il n'y a pas longtemps, évoque un droit des enfants dont je me demande, c'est ça le fond de la question, quel sujet peut être le porte-parole. C'est-à-dire, si on dit qu'il y a un droit des enfants, qui parle? Est-ce que c'est l'enfant lui-même qui va ester en justice, comme on dit, il va porter plainte lui-même? Ou bien est-ce qu'il aura un porte-parole? Et s'il a un porte-parole, c'est plus un droit des enfants. C'est un droit qui définit des porte-paroles de l'enfance. Ouais, c'est pas tout à fait. Il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Je n'aurais pas la même interrogation si on parlait ou si on avait parlé dans cette campagne d'un droit à propos de l'enfance. Alors, moi, je serais plutôt sur cette position. Il est peut-être utile, en effet, qu'on repense, qu'on pense un droit à propos de l'enfance. Mais dire un droit des enfants, ça c'est un signe des temps pour moi, parce que ça suppose, si on prend littéralement l'expression, que les enfants sont fondés à parler en justice. Alors, je ne voudrais pas être trop franco-français. D'ailleurs, je vais faire une remarque dans quelques minutes sur la langue anglaise à propos des enfants. Mais j'ai souvenir de quelque chose qui, en France, a quand même fait du bruit, qui était le procès Outreau, hein, où on a accepté les témoignages des enfants pour ce qu'ils étaient et on s'est aperçu qu'on avait mis en place une fantastique erreur judiciaire. Donc, c'est des questions. Voilà, c'est une question que j'essaye d'indiquer. Donc, ce que nous entendons dire autour de nous au sujet d'un droit des enfants et ce que nous avons pu lire dans le cadre de cette campagne d'affichage à laquelle je fais référence est à interpréter dans ce cadre dubitatif, quoi. Est-ce que les enfants sont fondés? Est-ce qu'il y a une parole des enfants, voilà, qui pourrait valoir en droit? Et je pense qu'il y a des tendances dans notre société qui, si vous voulez, au nom d'une critique de l'autorité, au nom de la nécessité de qu'il n'y ait pas de prince en la matière, peuvent aller jusqu'à soutenir, si vous voulez, l'idée que tout être, quelle que soit sa condition, a une parole qui vaut droit. Chacun réfléchira. Réciproquement, pour ainsi dire, dans nos temps actuels, dans nos contrées, la question de ce que mérite de valoir la parole proférée par un être que j'appellerais averti. Alors je pense que l'être averti, c'est une traduction possible de adulte. La question de ce que mérite de valoir la parole proférée par un être averti, pas seulement naïf par conséquent, naïf ça veut dire qui vient de naître, mais un être grandi et partant articulé, voire chevillé à du langage, la question autrement dit de ce qu'Hannah Arendt mettait au compte de la culture, par elle, par définition plus vieille que les nouveaux venus, et à ce titre à faire pour commencer des plus anciennement nés, cette question dans nos temps et dans l'ambiance de critique, disons, si vous voulez, de généraliser avec ses conséquences du patriarcat, cette question est traitée de fait, mais sans être pour autant posée et a fortiori examinée dans tout son enjeu. Remarque encore, note de bas de page, l'influence des langues sur les mentalités et la dominance de l'une d'entre elles à tel ou tel moment de l'histoire, dans toute l'affaire que j'essaye à peu près de définir, serait à méditer. Toute langue tend à définir de façon variable selon les époques, non pas la pensée telle qu'elle se comprend elle-même sur le champ, mais ce que j'appelle de mon côté le pensable, c'est-à-dire l'horizon, quelque chose comme l'horizon de conscience, de toute conscience explicite. Le pensable, je pense toujours avec une langue, quelle qu'elle soit. Et cette langue a des propositions de sens, de signification, qui sont toujours plus larges de ce que j'entends quand je la parle, quand je m'entends dire quelque chose, quand je la parle. Donc les langues sont... Il y a toujours du pensable dans la langue que j'essaye, avec laquelle j'essaye de penser, du pas encore pensé, du pas tout à fait pensé, etc. L'anglais, comme vous savez, dit « child », et donc ne reprend pas, comme le français, le latin « infants ». Et du coup, je me demande, comment est-ce que ceux qui parlent anglais nativement pensent l'enfance et toute cette affaire de droit à la parole que je viens d'évoquer. Alors, peut-être que la question ne se pose pas depuis cette langue-là, depuis ceux qui pensent avec cette langue-là, parce que « child » ne les invite pas à penser la question. C'est que moi, ma langue m'y invite. Elle me fait dire « enfant », mais « enfant » veut dire « qui n'a pas la parole ». Donc si je dis à un enfant « tu n'as pas la parole », je respecte ce qu'il est, je lui dis « tu es un enfant ». Mais avec « child », ça ne marche pas. Alors est-ce que la sous-estimation de certains problèmes, celui que j'essaie d'évoquer en l'occurrence grâce à la langue française, est-ce que la sous-estimation de certaines questions ne proviendrait pas du fait que nos langues, les langues avec lesquelles nous pensons, ne nous font pas a priori la même proposition? Leur champ de pensabilité n'est pas le même. Donc, l'anglais qui dit child ne reprend pas, comme le français, le latin infance. Le phénomène donc, que je mets ici en question concernant le statut de l'enfance tient peut-être au fait que nous faisons désormais davantage jouer implicitement dans nos pensées, en raison par ailleurs de l'organisation de nos mœurs, de l'américanisation par exemple de nos mœurs, nous faisons jouer implicitement dans nos pensées davantage la profondeur de l'anglais que celle du français. Mais nous continuons à dire enfant, mais nous pensons child. Un autre exemple du même type, je ne vais pas me faire que des amis ce soir, un autre exemple du même type concerne le mot gender, dont la traduction littérale, mais à mon avis pas assez réfléchie, permet d'estomper la différence entre genre et sexe, et pour ainsi dire de sous-estimer la valeur signifiante particulière du second terme. Gender, on l'a traduit par genre, et on aurait pu le traduire autrement que par là. Et pourquoi c'est la traduction par genre qui s'est imposée? Il y a quelque chose qui a... Bon. Il y aurait, fin de la remarque, note de bas de page, il y aurait beaucoup à méditer sur l'influence des langues sur nos pensées. Bon, toute cette situation, j'ai l'impression d'être pas tout à fait clair dans tout ce que je dis sur, comment dire, nous ne savons plus où et comment se trouve l'autorité parmi nous. Toute cette situation n'aurait pas lieu d'être si ce que, en suivant justement Hannah Arendt, mais aussi, si vous voulez bien, les termes du séminaire 2020-2022 que j'avais mené de l'espace public à la sphère sociale, toute cette situation compliquée, complexe que j'ai essayé de décrire avec les problèmes que j'y trouve, cette situation n'aurait pas lieu d'être si ce que je viens d'appeler, ce que j'ai appelé au passage vie privée, était davantage considéré du point de vue de la demeure et pas du domaine, où les personnalités sont vouées à se toucher, à se compléter et à se rendre proches plutôt que semblables. Toute cette situation n'aurait pas lieu d'être si ce que je viens d'appeler vie privée était davantage considéré du point de vue de la demeure et moins du point de vue du domaine, où, comme le mot l'indique, toujours se risque la domination et où toujours aussi se risque, par voie de conséquence, l'envie d'être à la place ou de prendre la place supposée décisive. Dans la demeure, telle que la pensée, alors il ne la pensait pas avec ce mot-là, je répète, Aristote, ou j'ai vu aussi l'économique de Xénophon, par exemple, pour comparer cette séance. Dans la demeure, vous avez une complémentarité, et la question de la domination n'est pas posée. Alors on pourrait dire elle n'est pas posée parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître que la question se posait, mais on pourrait aussi dire mais parce que la question ne se posait pas. Pourquoi? Parce que la demeure est un endroit pensé comme un lieu de conjonction, là où il y a des conjoints, et non pas comme un domaine, là où il y a de la domination. La relation, si vous voulez, à la fois homme-femme et parents-enfants, dans le texte d'Aristote que j'ai derrière la tête dans toute cette méditation, cette double relation, homme-femme et enfant-parent, parent-enfant, est exclusive, exclue le despotisme, je sais pas, je dirais a priori chez Aristote. Il n'en est pas question. Il n'en est littéralement pas question, ce n'est pas le problème. Donc, je retourne au fond la question, mais d'où vient que c'est un problème pour nous? D'où vient que pour nous, nous pensons ça assez spontanément en termes de domination de l'homme sur des hommes sur les femmes, des parents sur les enfants, etc., en disant finalement c'est pas bien. D'où ça nous vient? Voilà. Après tout, on pourrait dire, mais c'est pas un problème. Voilà. Donc c'est ça que j'essaye de vous dire en disant nous n'arrivons plus à penser la distinction domaine-demeure. Nous n'aurons plus à vivre avec cette distinction domaine-demeure. Bon, alors je dis que là où il y a domaine se risque toujours la domination. Et je viens de définir en étant, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? L'envie d'être à la place ou de prendre la place supposée décisive. Alors, dès que vous pensez peut-être un espace comme l'espace d'un domaine, ipso facto, il y a un dominant ou une, enfin il y a un être dominant, et la question est un être décisif, si vous voulez, un prince ou une princesse, hein, peu importe, il y a un être décisif, et la question de l'occupation de cette place devient en effet une question. Hein, être à la place décisive. Voilà. Qui ne voudrait pas? Voilà. Mais si on est dans une demeure, au sens de l'attelage conjugal dont Aristote me fait rêver, la question ne se pose pas. Il n'est pas question que l'homme prenne la place de la femme, ni la femme la place de l'homme, ni l'enfant la place du père, ni de la mère, etc. Le grand mot dans le texte de Xénophon, hein, je ne fais pas de lapsus, l'économique, c'est taxis en grec, la place. Voilà. Les choses sont à leur place. Et ça ne peut pas être la même pour plusieurs êtres différents. Chaque être a sa place. Voilà. Quand il y a dans un espace, dans un domaine, dans un espace où la domination se risque, la question de la même place pour au moins deux personnes se pose, qui sont donc concurrentes sur cette place, qui est la place estimée décisive, celle qui est enviée, pour laquelle il n'y a pas forcément du désir, mais de l'envie, oui. Alors réfléchir à cette notion de place, est-ce que les êtres ont une place, est-ce que les choses ont une place? Réfléchir à cette notion de place sera l'un des enjeux du séminaire qui commence ce soir. Mais pour l'heure, je reste, pour ce soir, si vous voulez, je reste avec ma question, qu'est-ce qu'une demeure? Pour ce que je veux dire ici, ce serait un espace à vivre et à penser comme non économique, je dirais au sens moderne. Non économique. Non économique, ça veut dire où se joue la question non pas du partage, non pas de la distribution, hein, c'est comme ça que j'ai défini économie en commençant tout à l'heure, hein. Donc si la demeure c'est un espace non économique, ça veut dire que ce qui se joue dans cet espace, ça n'est pas la question du partage ou de la distribution, mais c'est, comme je viens de le dire déjà, la question de la complémentarité. Encore une fois, je renvoie à l'attelage dont parlait Aristote, mais aussi en substance, c'est nos fonds, et je vous renvoie par la même occasion à ce que vous portez de signification à un mot comme conjoint, la conjonction, mot qui parle a priori de conjonction, où j'insiste sur la comparaison d'Aristote d'attelage, mais pas de domination. Le sujet, le problème, c'est que nous sommes en passe de n'avoir pas de demeure en ce sens-là, nous autres. Gens d'aujourd'hui. Nous sommes en passe de ne pas avoir de domaine dans lesquels il y a des conjoints, des conjonctions, et pas de domination. C'est-à-dire, nous avons tendance, je crois, à penser la conjonction du masculin et du féminin dans nos résidences, par ailleurs pénétrée, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, par le social, c'est-à-dire par la masse d'informations que les techniques de nos jours économiquement dominées font entrer dans ce qui devient dès lors davantage un logement, le logement d'un domaine qu'une demeure. Nous avons tendance donc à penser à la conjonction du masculin et du féminin dans nos résidences à l'aune des principes qui valent dans les négociations et les contrats. Je vous renvoie sur ce point à la position à laquelle aboutit le travail d'une sociologue comme Irène Théry, qui, je l'entends dire, que ce qu'il faut finalement, c'est que dans l'espace, Arendt aurait appelé l'espace privé, ou moi dans mon séminaire d'il y a 2-3 ans, je le nommais comme ça, il faut que s'établisse la solution, si vous voulez, du problème masculin-féminin, c'est la relation contractuelle entre l'un et l'autre. C'est de contractualiser les tâches domestiques. Elle le dit. Alors, le contrat, ça reviendra la semaine prochaine. mais dans un autre contexte, dans un tout autre contexte. Je pense que c'est un de mes adversaires dans ce séminaire, la relation contractuelle. La soi-disant liberté qui est supposée accompagner, dont le contrat serait la forme d'expression la plus aboutie. Il me semble que nous nous risquons de nos jours, dans nos contrées, sous l'argument d'une libération à l'égard de l'emprise séculaire du patriarcat, à considérer toute tâche domestique comme un emploi, c'est-à-dire à inscrire ce qu'il y a à faire, les tâches dont parlait à leur façon les textes que j'ai cités en commençant, Aurélien Berland, ou même le texte de Frédéric Douglas que j'ai mis en exergue. Nous risquons à, sous l'argument d'une libération à l'égard de l'emprise séculaire du patriarcat, à considérer toute tâche domestique comme un emploi, c'est-à-dire à inscrire ce qu'il y a à faire dans l'espace de ce que je voudrais pouvoir encore appeler demeure, au titre non pas d'un travail, mais d'une valeur travail. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de compter économiquement la moindre tâche, y compris les tâches domestiques. Est-ce que nous sommes sûrs que c'est la bonne voie pour ce qui pourrait s'appeler la liberté? Ce faisant, en comptant non pas, enfin en faisant valeur travail, travail à compter, de la moindre opération domestique dans la demeure, est-ce que nous ne généralisons pas les critères d'analyse propres au domaine économique, accentuant par là la pression de ces critères sur la compréhension de ce qu'est ou serait une vie humaine? En fait, je cherche, est-ce que c'est sous le nom d'émancipation? Est-ce que c'est la bonne définition de ce mot-là? Je n'en sais rien. Mais en fait, je cherche, si vous voulez, à essayer de penser des espaces-temps dans lesquels nous serions les uns et les autres, hommes et femmes, hommes, femmes et enfants, nous serions les uns et les autres, les uns auprès des autres, sans entretenir de relations économiques. Libérés, si vous voulez, des marqueurs de la relation économique. Qui est finalement le marqueur de la relation économique, c'est pas quand il y a du travail à faire, c'est quand le travail qu'il y a à faire est comptabilisé et devient une valeur travail. Il y a peut-être des tâches qui sont à faire et on ne sera pas plus malheureux si on ne les compte pas. Voilà, ça c'était la grande remarque pour ce soir concernant le sujet. Et j'avais annoncé qu'il y en avait deux, une sur le sujet, une sur la méthode. J'attaque la méthode, vous avez encore la santé? Oui. Alors, question de méthode. Par définition, puisque nous vivons aujourd'hui, nous sommes les derniers à parler. Les humains d'aujourd'hui sont les derniers à parler, ça va de soi. Est-ce que ça nous donne pour autant raison? Plus généralement, quel statut convient-il de donner à ce qui est dit à la fin? Je vais raffiner, parce que tiens, est-ce que c'est le dernier qui parle dans une réunion qui a raison? Est-ce que c'est la dernière génération qui parle qui a raison? Mais je vais raffiner. Et je vais m'expliquer, mais en fait, ce que je veux dire, c'est pour ça que j'en fais une question de méthode. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, par exemple, dans un livre de philosophie? C'est ce qui est dit à la fin ou c'est ce qui est dit au début? C'est quand vous entrez dans le problème ou quand vous sortez du problème? Alors, une question de méthode. Est-ce que le fait d'être le dernier à parler ou d'avoir le dernier mot ou d'être dans le dernier mot donne pour autant raison? Quel statut faut-il donner à ce qui est dit à la fin? Le dernier mot est-il le plus juste? C'est évidemment à réfléchir et je voudrais le faire, je le ferai volontiers concernant la lecture même des auteurs avec lesquels vous, moi, nous réfléchissons. Par exemple, j'aimerais bien discuter la manière de procéder de Catherine Malabou dans son livre, très important pour moi, hein, même si je le discute. Et pour vous, je pense, très important. J'aimerais bien discuter la manière de procéder de Catherine Malabou et dans cet esprit-là, je dirais, contrairement à elle, qui retient contre Aristote les derniers livres de la politique, où se trouve refermée une question ouverte au début quant au pouvoir, en fait elle dit, substance bien sûr, c'est pas mal Aristote, au début à la politique, il y a une bonne question qui est posée, mais malheureusement à la fin, il y répond, et il y répond pas bien, parce qu'il répond en disant, en fait, en principe, on devrait dire, enfin oui, c'est une question, est-ce qu'il y a un homme qui est plus qu'un autre fondé à commander? Est-ce qu'il y a un humain qui est plus qu'un autre fondé à commander? Alors, non, bonne question, bonne question. Sauf qu'à la fin, Aristote dit, bah oui, mais alors dans la vraie vie, dans la vie pratique, on ne peut pas être tous à la place du pilote dans le navire, il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle, etc. Et donc, il referme la question, mais à la fin du livre. Et en fait, Catherine Malabou, comment dire, d'une certaine manière, je caricature, mais écarte Aristote de la réflexion parce qu'il a mal fini son livre. Voilà, et elle retient ça, elle retient le dernier mot, elle ne retient pas l'ouverture de la question. Le fait qu'il y a une question qui a été ouverte. Voilà. Et je pense que c'est une question de méthode. Et je voudrais dire que je m'intéresse et je propose qu'on s'intéresse au début. Moi, c'est une vieille idée que j'avais quand j'étais, je me souviens d'un séminaire que j'avais commencé à Paris 1. Il s'agissait de lire Kant à l'envers. C'est-à-dire, on peut dire, Kant écrit la critique de la raison pure, puis la critique de la raison pratique, puis la critique de la faculté de juger. Alors, c'est comme si, à la fin, critique de la faculté de juger, il réglait les problèmes qui restent dans la critique de la raison pure. Et la critique de la raison pratique. Mais en fait, on pourrait aussi dire les choses, c'est plus intéressant, d'ailleurs j'avais proposé de lire la critique de la faculté de juger en partant de la dernière page et en remontant vers le début, oui, une façon de lire les textes, et en fait on s'aperçoit quand on fait ça, c'est une espèce de travail mental, qu'on s'ouvre à des questions, et on ne ferme pas par des réponses. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ça c'est une question de méthode. C'est la question de méthode que je voudrais poser. Peut-être que les... Alors après, on pourra la prendre sur le plan historique, j'y viens. Peut-être que c'est ce qui se produit assez souvent, les commencements, les entames sont plus ouverts et moins enchaînés. Par conséquent, ils sont plus libres. Peut-être convient-il dès lors que dans nos comportements de lecteur, nous faisions davantage droit aux moments initiaux avec lesquels s'ouvrent les textes que nous lisons, introduisant à ce moment-là une question. Peut-être aussi bien convient-il, et ça revient d'ailleurs au même, que nous ne pensions pas seulement à nos livres, pour ainsi dire, refermés dans leur conclusion. Est-ce qu'il n'en est pas de même avec les époques sur le plan historique ? Je voudrais reprendre ici une formule de Bernanos. En reconnaissant, là aussi je marche sur des œufs, que la lecture de Bernanos que j'ai faite l'année dernière, ou ces deux dernières années, a été pour moi une vraie lecture. Et je ne m'attendais pas, étant donné la réputation de Bernanos, sur le plan notamment politique, à trouver ce que j'ai trouvé dans ces lectures-là. Et par ailleurs, peut-être savez-vous que Jean-Marie Straub avait fait un film, extraordinaire petit moment de cinéma, petit par la durée, La France contre les robots, qui est le titre d'un texte de Bernanos. En fait, c'était ça ma question, comment se fait-il que Jean-Marie Straub se soit intéressé à Bernanos? Donc du coup, j'ai lu, et du coup, je suis tombé sur des choses qui m'ont fait énormément réfléchir. Donc je vais emprunter à Bernanos, lui rendre dans une certaine mesure quelque chose... sans quoi ce séminaire n'existerait pas. Bernanos contestait, je le cite, que l'homme du passé, qu'on puisse à juste titre dire que que l'homme du passé n'ait jamais été qu'un esclave dressé depuis des siècles à se coucher aux pieds de maîtres impitoyables et à leur lécher les mains. C'est donc dans la quatrième partie de La France contre les robots. Donc ce que veut dire, je pense, littéralement ce texte, c'est écoutez, arrêtez de penser que parce que vous êtes d'aujourd'hui, vous êtes meilleur que les hommes d'autrefois. Voilà. Il y en a marre de cette façon de penser l'homme du passé comme un esclave dressé depuis des siècles à se coucher aux pieds de maîtres impitoyables et à leur lécher les mains, comme si nous, nous n'étions plus ça. Voilà. Ou comme si eux n'étaient que ça. Tandis que l'homme d'aujourd'hui serait indiscutablement plus libre et plus émancipé que son prédécesseur. Donc si vous acceptez ma remarque de méthode sur la fin et le commencement, pas de raison de penser que les hommes d'autrefois étaient moins libres que nous. Il n'y a pas de raison de penser qu'avec leur façon de penser, la demeure, etc., ils étaient plus bêtes que nous. Voilà. Donc il s'agit pour moi de mettre en question, par là, l'idée d'une ligne historique, a fortiori d'une ligne progressiste, mais il s'agit aussi pour moi de ne pas reproduire à propos de nos prédécesseurs historiques l'erreur ethnocentrique dénoncée par les travaux anthropologiques de Claude Lévi-Strauss et ensuite Philippe Descola. L'erreur ethnocentrique, c'est de dire, de mesurer les autres cultures à l'aune de la nôtre. Mais cette erreur ethnocentrique dans l'espace, en fait, on l'a fait couramment dans l'histoire en pensant que nous sommes sur une ligne de progrès, hein, que nous sommes des progressistes, par conséquent, ceux qui nous ont précédés sont des demeurés. C'est le cas de le dire, enfin, je joue les mots juste sur le mot demeure. Ce sont des demeurés. Parce que nous sommes des progressistes. Voilà. Nous serions des progressistes. Bon, je pense qu'il ne faut pas reproduire l'équivalent sur le plan de l'histoire de l'erreur ethnocentrique sur les plans de l'espace. Et donc, il s'agit aussi pour moi, en l'occurrence, de faire polémique avec la pensée du post-moderne, par exemple, pensée, si le mot convient d'ailleurs, où s'affirme au fond qu'il suffit ou qu'il suffirait d'être d'après post pour être sinon tout à fait meilleur, du moins revenu d'illusion, évidemment postulée puisque illusion comme problématique. Que nous serions, nous, parce que nous serions d'aujourd'hui, les derniers, etc., plus à même de ne pas commettre les erreurs de nos prédécesseurs, lesquels sont du coup enfermés dans l'erreur. Hein, c'est la même chose que si on dit ce qu'il y a de bien dans les textes, c'est ce qu'il y a à la fin. Quand les problèmes sont fermés et non pas quand ils sont ouverts. Alors à ce type de proposition concernant l'histoire, il est possible, comme vous le savez peut-être, d'opposer le rapport de Benjamin dans les thèses sur l'histoire, on parle des bifurcations historiques, j'y reviens, ou quelqu'un, un sociologue portugais qui le reprend aujourd'hui, qui s'appelle De Sousa Santos, qui a écrit un livre qu'on a traduit en français, je crois que c'était en 2016, qui s'appelle « L'épistémologie du Sud ». Il cite à un moment, de façon décisive, Benjamin, et qui en gros dit, caricature, mais enfin, arrêtez de nous prendre, nous, les peuples du Sud, pour des demeurés. Voilà. Nous ne sommes pas scientifiques comme vous, mais nous avons quand même des savoirs, etc. etc. Hein, donc il se réclame de la pensée historique de Benjamin. Pour Benjamin, comme pour Sousa Santos, l'histoire est faite de bifurcations. Et il est permis de dire, écoutez bien ce que c'est, réfléchissez bien à ce que c'est qu'une bifurcation. C'est une bifurcation, ça veut dire il y a un moment, il y a deux chemins, vous en prenez un, par conséquent, vous en abandonnez un autre. Donc l'histoire est faite d'avancer dans un chemin, mais aussi d'abandon sur un autre chemin. Il faut penser aux deux. C'est ça la thèse de Benjamin sur l'histoire. Une des thèses, en tout cas, de Benjamin dans les thèses sur l'histoire. L'histoire est pour eux, et pour lui, faite de bifurcation, il est permis de dire donc que dans sa marche, elle abandonne régulièrement et même bloque, j'ai vérifié, le mot est chez Benjamin, les possibilités. Cette thèse revient à dire qu'il existe historiquement des initiatives, ça c'est moi qui traduis, cette thèse de Benjamin revient à dire, à mon avis, qu'il existe historiquement des initiatives qui n'étaient pas impossibles, mais qui n'ont pas été prises. Mais à son tour, cette thèse ne va pas de soi. Comment est-elle compatible, cette thèse sur l'histoire que je viens de dire, avec une autre thèse que nous livrent des penseurs de la technique comme Leroy Gourhan, Simondon ou Michel Guérin, qui nous laissent tous à penser qu'il n'y a pas de retour ou de rétrogradation technique et qu'une fois un outillage abandonné, l'humanité n'y revient pas. On ne reviendra pas à la herse. Comment penser l'histoire comme bifurcation à la Benjamine et en même temps penser l'histoire des techniques selon les leçons de Leroy Gourhan, Simondon, etc. C'est toute une question et je n'y trouve pas de réponse. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je me la pose depuis longtemps et je n'ai pas de réponse. Le contexte est donc éminemment problématique et dans ce contexte-là, je cherche ou je vous propose seulement de chercher à sauver l'idée qu'il peut y avoir aussi une histoire et non pas un progrès des techniques, en ce sens que dans ce domaine aussi, il y a des ruptures et des bifurcations. Il y aurait tout un travail à faire pour de jeunes chercheurs qui consisterait à montrer, à chercher à montrer, à chercher à montrer, il faut le chercher, qu'il y aura eu des bifurcations dans l'histoire de la technique. Des possibilités abandonnées. Des initiatives qui n'étaient pas impossibles et qui cependant n'ont pas eu lieu, etc. Dans ce cas-là, on pourrait, si vous voulez, faire valoir davantage la thèse benjaminienne sur l'histoire et critiquer davantage la thèse progressiste quant à l'histoire. Donc je vous propose, il faudrait pouvoir faire cette recherche-là, ou accepter de penser à ce que Hannah Arendt appelait des commencements. Hannah Arendt dit qu'on ne peut rien comprendre à l'histoire si on n'accepte pas de penser que les hommes sont capables d'effectuer des commencements. Des commencements, dit-elle, n'ont pas de cause, mais seulement des conditions de possibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire consiste à dire que tout ce qui s'est passé a une cause. Donc d'enchaîner le moindre événement à une cause. Mais ce que dit Hannah Arendt, elle n'est pas la seule d'ailleurs, en substance, c'est de dire, mais si vous enchaînez tout événement à une cause, alors il n'y a plus d'événement. Il n'arrive rien. C'était déjà dans la logique des causes. Or, dit-elle, les humains sont capables de prendre des initiatives, ils sont capables d'opérer des commencements. Un commencement, c'est le début de quelque chose qui avait des conditions de possibilité, mais pas de cause. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de raisonner avec ces idées-là en tête pour penser nos problèmes, que ce soit quelques problèmes que ce soit, donc en particulier nos problèmes de liberté, d'émancipation, d'autorité, de pouvoir, de domination, etc. Les commencements peuvent être, par exemple, des moments d'invention qui, comme on le saura, mais comme on ne le sait pas sur le champ, ont une cohérence. Qui cependant ne sont pas déterminés a parte ante, a priori, de sorte qu'on ne peut dire qu'ils constituent un progrès sur une ligne historique en constant avancement. Le fait qu'il y ait des techniques sur lesquelles on ne reviendra pas, elles ont été abandonnées, etc., il y a des inventions, etc., ne signifie pas pour autant que ces inventions se situent sur une ligne de progrès régulier. Il y a des bifurcations, il y a des modifications qui peuvent être plus que des modifications, d'ailleurs des changements d'orientation assez radicaux. Ma thèse est que dès lors qu'il est admis que les inventions et les commencements sont partie prenante de la vie humaine, je regarde parce que en fait c'est long encore ce que j'ai préparé, et je pensais que je serais court, c'est vous dire. Dès lors qu'il est admis que les inventions et les commencements sont partie prenante de la vie humaine, il vaut mieux pour la vivacité et le bonheur de cette vie même qu'il ne soit pas hypocritement présent, mais réalisé, avéré, authentifié, ou comme je propose de dire, comme vous savez peut-être, à l'occasion, découvert. C'est mieux que l'autre attitude possible à l'égard de l'inventivité humaine, c'est mieux parce que l'autre attitude possible à l'égard de l'inventivité humaine a certes le pouvoir d'amortir cette inventivité en l'employant à des fins selon des manières déjà éprouvées, mais pas sans peu ou prou l'apprendre du coup dans la logique perverse d'un déni, grâce à quoi on peut toujours substantiellement continuer à se comporter comme auparavant. Le problème peut-être, pour simplifier, je saute cette phrase, vous la relirez éventuellement si je mets ça sur le site, c'est que finalement dans la ligne progressiste, dans la compréhension progressiste de l'histoire, il y a toujours quelque chose qui continue comme auparavant. On est enchaîné à une logique causale, et on pourrait dire ça aboutit à des phrases du type « il n'y a pas d'alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Et si vous pensez l'histoire comme bifurcation, vous pouvez aussi penser le présent comme habité par une bifurcation possible. Sur le plan des techniques, comme sur tout autre plan, politique ou économique, par exemple. Ou économique. Moi, ça va être ça, mon sujet. Est-ce qu'on peut bifurquer économiquement? Qu'est-ce que je fais? Je continue encore un peu ou on passe à la discussion? Peut-être j'ajoute un petit point. Ouais. Oui. Donc, sur cette base que j'espère à peu près clairement exposée, il me semble possible de faire des distinctions parmi les dynamiques existentielles ou historiques et de reprendre du coup, dans une mesure désormais définie, le lexique du progrès. Je m'appuierai pour ça sur une phrase d'Yvan Segré que j'ai trouvée dans Les Pingouins de l'Universel, page 147, où Yvan Segré dit « Au sein d'une dynamique sociale progressiste, un être humain ne prend pas de place, il en crée. Au sein d'une dynamique sociale réactionnaire, c'est l'inverse. » Donc, je vous ai fait douter un petit peu, j'espère, quand même, de la notion de progrès, de la notion de progressisme. Je dis qu'il ne faut pas prendre ceux qui nous ont précédés dans l'existence pour des arriérés, etc. Mais quand même, je vous propose, après ces précautions prises, de valider, si j'ose dire, une manière de définir progrès que je trouve dans cette phrase-là. En fait, ce qui m'intéresse plus que le mot progrès, c'est le mot dynamique. Au sein d'une dynamique sociale progressiste, un être humain ne prend pas de place, il en crée. Donc on retrouve la question de la place. Créer une place plutôt qu'en prendre une, ça serait une dynamique progressiste. Une dynamique progressiste. Dans une dynamique sociale réactionnaire, c'est l'inverse. Il ne crée pas de place, mais il en prend une. Ça, c'est aussi une dynamique. Mais cette fois, elle n'est pas progressiste, elle est réactionnaire, dit Yvan Segré. Alors, cette phrase m'intéresse au-delà du contexte politique où elle est prononcée, pour cette raison qu'elle propose, je viens de le dire, le mot de dynamique à notre attention, et que ce faisant, elle invite substantiellement à lier la notion de progrès, non pas à la suppléance, alors excusez-moi pour la complication à cette heure, non pas à la suppléance, mais à la supplémentation. Non pas au remplacement, mais à l'adjonction. Celui qui prend une place, il supplée la logique de la suppléance. Celui qui crée une place, il fait un supplément, il ajoute. Si vous voulez. Celui qui prend une place, il remplace quelqu'un sur sa place. Celui qui crée une place, il adjoint une place à un ensemble de places. Ça serait progressiste. Ça serait une façon de prendre le mot progrès, dynamique progressiste. C'est bien ce que nous pouvons dire de l'humanité en général, il me semble. Dans toute son histoire, elle n'a pas cessé, elle n'aura pas cessé de s'adjoindre, de s'articuler à des capacités, à des puissances, à des dynamiques qu'elle n'avait pas autrefois. La raison de cette articulation incessamment dynamique est sa défaillance originelle. Alors, c'est la proposition philosophique fondamentale que je voulais poser, j'espérais le faire plus tôt, pour l'ensemble du séminaire. Ça va revenir séance après séance, et c'est les 5 séances qui restent. Je pose l'être humain, d'ailleurs pour moi c'est une autre façon de dire l'humain est un animal technicien, c'est que cet animal n'a pas tout ce qu'il lui faut pour vivre d'entrée de jeu. Il est originellement défaillant. Et il faut qu'il supplée à sa défaillance en produisant ses conditions d'existence ou ses conditions de vie, en ajoutant au monde, en posant quelque chose dans le monde qui n'y était pas déjà. L'humanité est articulée de manière incessamment dynamique à une défaillance originelle et qui est une défaillance. Alors, je vais essayer de faire entrer dans les esprits que cette défaillance n'est jamais réglée. Ce n'est pas autrefois qu'elle a eu lieu. C'est pour ça que je ne suis pas progressiste. Elle est toujours là. Nous sommes toujours défaillants. Nous sommes équipés de choses dont nos ancêtres n'étaient pas équipés, mais eux étaient équipés de choses dont nous ne sommes plus équipés. Voilà. Et nous sommes toujours défaillants. L'humanité est originellement défaillante, substantiellement défaillante, et sa défaillance recommence sans cesse. Et sa façon de répondre à cette défaillance originelle recommence sans cesse. Il y a toujours des commencements pour répondre, ou des recommencements pour répondre à la défaillance originelle. Donc comprenons cette formule de l'humanité comme être défaillant. C'est Bernard Stiegler qui disait ça, que je vais reprendre. L'humain est un être en défaut d'origine. Comprenons cette défaillance comme signifiant que pour les humains, il y a toujours à regarder du côté du commencement, toujours, donc aujourd'hui encore, à prendre la mesure de ce qui commence, et cela particulièrement pour cette raison que ce qui commence est, par définition philosophique substantielle, en défaut d'origine. Tout ce qui commence est sans archi, n'a pas de cause. Ça traite des conditions de possibilité, mais pas de cause. C'est sans archi, sans dessein, sans projet apte à le cadrer ou à le définir d'avance. De sorte qu'on ne sait jamais la portée de ce que l'on commence si, en effet, on commence vraiment quelque chose. Toute génération qui commence quelque chose ne peut, dans le commencement même, connaître la portée de ce qu'elle commence. Si elle pouvait le savoir, alors ça ne serait pas un commencement, ça serait prédéterminé, en l'occurrence par une connaissance des enjeux. La dynamique sociale réactionnaire, pour reprendre l'expression de Segré, procède à l'inverse d'une pensée qui compte non pas sur les commencements, mais sur l'origine. Alors, quand vous dites... c'est un problème de logique. Quand vous parlez commencement, vous regardez vers ce qui vient. Ça commence, et donc il y a après le commencement quelque chose. Quand vous pensez en termes d'origine, vous remontez toujours à l'avant. Vous demandez d'où ça vient, d'où ça sort, etc. Peut-être que la dynamique sociale réactionnaire procède d'une pensée qui compte sur l'origine, donc qui ne peut pas admettre qu'on soit originellement défaillant d'une certaine manière, et qui, comptant ainsi, ne pensant qu'aux places et aux emplacements déjà constitués, fait valoir pour tout ce qui commence ou pour tout ce qui s'invente, l'insertion, le cadre d'avance. Est-ce qu'on peut penser des choses qui ne s'inséreraient pas dans un cadre, qui seraient véritablement de l'ordre du commencement? Est-ce que nous pouvons nous libérer de la pensée de l'origine, etc. Le vocabulaire que je viens d'introduire de l'être en défaut d'origine sera, je vous l'ai dit, essentiel au présent séminaire. Pour l'heure, pour ce soir, je l'évoque afin de poser une thèse que vous pourrez trouver abrupte ou excessive, mais que j'ai au fond déjà soutenue dans Art et Industrie, à savoir qu'une dynamique historique se fausse, une dynamique historique se fausse, dès lors que dans l'estime même de son mouvement, et nier la relativité de ce mouvement et perdu de vue le fait qu'il soit modifiable dans son propre cours. C'est-à-dire qu'on puisse toujours commencer. Qu'on puisse toujours, dans un cours, par exemple dans un cours technique, dans un trend technique, commencer quelque chose. Voilà. Une dynamique historique se fausse, elle est plus dynamique, elle se fausse. À partir du moment où on ne conçoit pas que dans la dynamique même qu'elle est, elle puisse être modifiée et que des commencements puissent avoir lieu. En fait, exercer un pouvoir sur quelqu'un, c'est interdire à ce quelqu'un de commencer quoi que ce soit. Je reviens à la définition de la dianoïa chez Aristote, hein, l'initiative. Avoir l'initiative à la place d'un autre, c'est empêcher cet autre d'avoir l'initiative, c'est-à-dire de commencer quoi que ce soit. À ce moment-là, il n'y a pas de dynamique sociale progressiste, il n'y a plus qu'une dynamique sociale réactionnaire si vous acceptez de penser avec le vocabulaire d'Yvan Segré. Donc finalement, peut-être qu'une dynamique historique se fausse dès lors que la possibilité de commencer et de recommencer sans cesse est d'une manière ou d'une autre écartée. Or, une société d'êtres originellement défaillants n'a pas de voie d'existence tracée d'avance. Et si chacun de ses membres existe, s'il ne vit pas d'une vie seulement biologiquement réglée, je reviendrai longuement par la suite sur ce mot d'existence, exister. Si une société d'êtres originellement défaillants n'a pas de voie d'existence tracée d'avance, et si chacun de ses membres existe, c'est en tant que de la voie sur laquelle il chemine à tel ou tel moment, il peut en principe toujours sortir. Et c'est ce que voudrait dire émanciper, le ex de émanciper. Peut toujours sortir. Cela peut se dire autrement, si les humains ne vivent pas d'instinct mais de technique, s'ils ne peuvent éviter d'opérer le monde, d'y faire, d'y déposer des choses, s'ils ne vivent qu'entourés d'équipements par eux fabriqués, aucune de leurs techniques n'est a priori définitive ou sans appel, toutes sont a priori modifiables si elles sont humaines. La réciproque de cette proposition, c'est que toute organisation, toute administration, toute économie, aussi productive et même prodigue soit-elle éventuellement par ailleurs, qui empêche, je reprends ma phrase, la réciproque de ce que je viens de vous dire, c'est que toute organisation, toute administration, toute économie, aussi productive ou même prodigue soit-elle par ailleurs, qui empêche de modifier, qui empêche au moins certains d'entre nous de modifier, ne serait-ce que par ajustement, un ensemble donné de techniques, toute cette organisation, administration ou économie ne peut qu'être endossée ou soufferte, mais pas désirée, par une humanité en accord avec sa nature défaillante, c'est-à-dire assumant la défaillance qui la constitue. L'humanité, si elle assume la défaillance qui la constitue, si elle se sait, si elle s'admet comme défaillante, ne devrait pouvoir accepter qu'une économie sans cesse modifiable dans ses procédures et techniques même. Est-ce que je dis ça à peu près clairement? C'est comme si je disais, au fond, il n'y a pas de loi économique. Sauf si quelque part on pense justement que les humains sont une espèce capable d'assigner leurs conditions d'existence, les techniques, les travaux, le travail, l'économie, etc., à des lois qui seraient des lois indiscutables, intransformables, non modifiables, etc. Pense que c'est une clé de toute pensée de la liberté ou de l'émancipation que d'arriver à admettre, je dirais presque comme point de départ, si vous voulez, que, je répète ma phrase, je m'arrête là pour ce soir, toute organisation, toute économie aussi productive et prodigue soit-elle, qui empêche ou empêcherait de modifier, ne serait-ce que par ajustement, un ensemble donné de techniques, ne peut être qu'endossée ou soufferte, mais pas désirée par une humanité en accord avec sa nature défaillante, c'est-à-dire assumant la défaillance qui la constitue. Voilà. Si on vous interdit de toucher, évidemment, je pense à tout ça, je pense à plein de choses. On peut pas modifier, quoi. On peut pas. On est devant des formulaires, on ne peut que les remplir. Voilà, ça c'est une organisation économique d'aujourd'hui. Voilà. Vous devez remplir un formulaire et vous ne pouvez pas dépasser 150 caractères. Vous ne pourrez pas ne pas prendre les questions dans l'ordre où elles vous sont imposées. Vous ne pouvez pas toucher. À partir de ce moment-là, il y a quelqu'un parmi nous qui se prend pour indéfectible et incapable de faillir. Celui qui a organisé le système. Celui qui a produit le formulaire sur lequel vous, comme un rat, vous butez. Vous voyez ? Ben c'est ça que je mets en cause. C'est ça que j'essaye de mettre en cause. Il faut que nous pensions la moindre de nos techniques, et a fortiori la pas moindre de nos techniques, comme modifiable. Dès lors qu'il n'y a pas ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une surestimation quelque part de l'humanité, et du coup, de la domination en conséquence. Voilà, pour ce soir. Oui.
En fait, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est un truc qui me questionne, en tout cas. Bah, merci déjà à Damien pour ce séminaire. Et bah, moi, la place, c'est un truc, par exemple, qui me pose problème.
La quoi, la place ?
La place, oui. C'est-à-dire de penser en termes de place. C'est-à-dire de se dire... Alors, certes, la citation de... les pingouins universels. En effet, on voit bien ce qu'il peut y avoir de fort dans le fait de créer alors, sa place, là, en l'occurrence. C'est pas tout à fait comme ça que c'est dit, mais c'est un peu ce qu'on pourrait comprendre. Ou est-ce que c'est créer des places
je coupe, non, je coupe pas. Ben, littéralement, ce qu'il dit, c'est une place.
Oui, une place, d'accord. Pardon l'indéterminé, mais c'est quand même une détermination. C'est quand même une place qui existe désormais. En fait, ça m'interroge parce que c'est une autre façon quand même de rester dans une logique de la distribution. C'est-à-dire que de dire, ok, bah, toutes les places qui existent ne nous importent pas, enfin ne nous conviennent pas, alors créons des places. Enfin, en fait, ça, c'est pas vraiment une question, mais je vois le potentiel un peu émancipatoire, comme je peux dire. Mais c'est quand même se mettre quelque part. Quoi. Et c'est presque à contresens de ce qui fait notre défaillance originelle, finalement. C'est-à-dire assumer, si on assume au bout, jusqu'au bout, cette défaillance substantielle et originelle, l'absence d'origine, moi, j'aurais envie d'être nulle part, en fait. Enfin, je ne parle pas que de manière métaphorique, en fait. C'est-à-dire d'échapper toujours un peu, quand même, à toute forme d'assignation ou à une place qu'on m'attribuerait ou que même je m'attribuerais moi-même, en fait.
Deux choses. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si mon séminaire est cohérent.
Mais on finit dans 20 minutes peut-être. On va fermer la porte, on va désolé. Toujours du bruit.
Oui, deux choses. Alors je ne sais pas si elles sont cohérentes et j'allais dire, en fait, j'ai dit je marche sur des œufs parce qu'en fait, je ne sais pas si ça tient. Tout ce que c'est des questions, quoi. C'est plein de questions, vraiment plein de questions. Tout ce que je vais dire cette année. Mais bon, deux remarques. Il me semble que j'entends, en tout cas, j'entends dans ce que vous dites à tort ou à raison, mais j'entends enfin, quelque chose qui tournerait autour de l'expression être de quelque part. Je suis de nulle part. C'est mieux, c'est ça que vous diriez, quoi. Au mieux être de nulle part que de quelque part. C'est-à-dire être assigné à une. Alors c'est la question de la définition de l'identité. Hein. Je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis français, je suis. Etc. Je suis assigné à un territoire, je suis de quelque part et je ne pourrais pas en bouger. Je parlerai de la migration hein, par la suite. Qu'est-ce que c'est bon. Mais ça, pour rester dans les termes de ce soir, se penser comme de quelque part, c'est penser en termes d'origine. C'est d'où je viens. La question, c'est d'où je viens. Voilà. Alors que la question à laquelle j'essaye de vers laquelle j'essaye de concentrer l'attention, ça serait plutôt la question où on va. Voilà. Et peu importe, enfin c'est pas vrai, je pense pas ça, pas peu importe d'où on vient, mais que peut-être que pour penser où on va, il faut aussi réfléchir à, non pas à nos origines, mais aux avertissements qui nous ont été adressés hein, par le passé, à des bifurcations problématiques, enfin à des choses comme ça. Mais en tout cas, regardez plutôt vers l'avenir que vers le passé. Donc ça, c'est pas vraiment une réponse. Bon. Et puis ensuite sur la question de la place. Donc moi, je me rends compte que ça m'obsède. Enfin, le petit livre Faire place, il y avait déjà ça dans le titre. Là, je notais en écoutant la question. Ce qu'il faut, c'est peut-être l'enjeu, c'est pas, c'est de trouver de la place. Peut-être qu'on aurait besoin d'une économie, de penser une économie dont l'affaire ne serait pas la distribution des biens, des richesses, des partages, etc. Le partage est un mot tellement ambigu. Bon. Et puis quand on regarde l'histoire de tout ça, tellement compliqué, penser selon des tas de modèles. Plutôt que de dire que l'économie, c'est la distribution de biens qu'ils vont finir tôt ou tard par être valorisés. Et donc après, ça devient la distribution des valeurs et non plus la distribution des biens. Et les biens, finalement, trouver de la place. C'est complètement, ça n'a aucune chance de convaincre les financiers de Wall Street, hein, ce que je dis là. Est-ce que ça nous empêche d'y penser, l'idée qu'il nous faudrait reformer la notion même d'économie en disant son affaire, c'est trouver de la place. Alors, pour ce qu'il y a déjà, mais pour ce qui vient aussi bien. Trouver de la place pour ce qui vient. Voilà. Et quand je lis l'économie de Xénophon, je suis sidéré de voir combien de fois le mot taxis est prononcé dans le texte, et c'est ça la question. Et il décrit un couple idéal, un homme et une femme par conséquent, dont c'est ça, la relation ou l'amour, et fait de ça trouver des places pour chaque chose qui leur arrive. Pourquoi pas? Si on se demandait. Est-ce que c'est une question qu'on se pose tant que ça? Où ça se situe ce qu'on fait? Où ça se passe? Accessoirement, aujourd'hui, ça peut se passer dans plusieurs lieux en même temps. Hein. Quel est l'endroit décisif? Est-ce qu'une autre place que la place décisive peut avoir lieu? Alors, pas qui remplacerait la place décisive, parce que ça, c'est des problèmes de conquête du pouvoir, des problèmes d'occupation aussi, occuper le siège du pouvoir. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça sera toujours du pouvoir avec son siège. Et est-ce que la question, ça ne serait pas plutôt de réaliser une autre place décisive? S'il y a une autre plaisir, ça veut dire qu'il y en a deux. Là où il n'y en a qu'une, il y en a deux. Là où il y en a deux, on en mettra trois, enfin, etc. C'est-à-dire démultiplier le décisif, c'est le contre-despotisme, ça, au sens de la définition d'Aristote. Le despote, c'est celui qui a la dernière à la place ou à la place d'un autre.
Si tu démultiplies le...
Pardon ?
Si tu démultiplies le décisif, il n'y en a plus ?
Ben non. Et je pense que c'est lié quelque part à la possibilité d'avoir l'initiative. Je ne sais pas s'il y a des questions par ailleurs.
Alors, Citon est en train d'écrire. Mais moi, j'avais une petite question. Tu as défini, entre autres choses, mais notoirement, la demeure comme une espèce non économique. Et est-ce que ça ferait un sort à la formule assez courante d'économie domestique ? Ou alors, est-ce que là, il s'agirait d'une autre économie quand on parle d'économie domestique ?
Oui, alors, évidemment, tout ça, mais quand je dis c'est un espace non économique, je veux dire non économique, si on entend par économie, si on lit l'oïkos, là, l'économie au fait qu'il y a des despotes. Voilà. Donc la demeure est un espace dans lequel, par hypothèse, en tout cas chez Aristote, il n'y a pas de despotes, et en ce sens-là, il n'est pas économique. Où il n'est qu'une part de l'économie à laquelle nous, peut-être il faudrait que nous refassions une part. Mais j'ai oublié ta question.
Non, c'était comme quand tu définis la demeure comme un espace non économique, est-ce que ça fait un sort à toutes les... Est-ce que ça recouvre tous les sens d'économie, notamment celui qui est dans le cadre d'économie domestique ?
En fait, une fois que j'ai dit tout ce que j'ai dit, je pourrais... Pas forcément. Si je dis de but en blanc, la demeure est un espace non despotique, je vais avoir toute la critique du patriarcat sur le dos. Et donc, je suis obligé de dire les choses avec précaution. Donc, je commence par dire, comme j'ai dit, mais au fond, finalement, ce qui devrait ressortir de mon raisonnement, s'il est à peu près correct, c'est que, en tout cas, les anciens ont pensé, sous le nom d'oïkos, qu'on pourrait là traduire par demeure un espace non despotique. Et la charge de cet espace non despotique, c'est de s'occuper, de s'aimer, et avec la conséquence de ça, qui est de faire des enfants et de s'en occuper.
Alors, Yves Citon, une question.
Oui.
Très jolie. Merci pour cette belle leçon. Tu as distingué demeure et domaine et dit que nos moyens de communication pénètrent de toutes parts nos demeures. J'en déduis que c'est à nous qu'il appartient de protéger nos demeures de leur occupation par des dominations venues de différents domaines. Mais dans la référence à la place dans la demeure, tu donnes comme piste le joug qui donne à chacun une place sous l'attelage, comme si c'était déjà structuré. Mais la citation de Segré dit que la dynamique progressiste permet de créer des places. Est-ce toujours un va-et-vient entre les deux ? La notion de place naturelle a-t-elle un sens pour toi ? Et celle de place antinaturelle ? Je peux revenir.
Oui. Et on pourra garder la trace de la question pour que j'y réponde patiemment par la suite.
Je la copie. Elle s'est gardée.
Oui, relis, s'il te plaît.
Merci pour cette belle leçon. Oui. Tu as distingué demeure et domaine et dit que nos moyens de communication pénètrent de toutes parts nos demeures. J'en déduis que c'est à nous qu'il appartient de protéger nos demeures de leur occupation par des dominations de différents domaines.
Oui, alors, oui. Je coupe là autant qu'il est possible. Parce que aujourd'hui, par exemple, où techniquement ce sont des ondes qui traversent les murs, c'est difficile. Mais enfin, c'est quand même une responsabilité de savoir si on veut des prises. Et on pourrait s'interroger, parce que derrière mon propos extrêmement philosophique général, il y a des questions extrêmement concrètes qui sont, par exemple, là où sont posées les prises sur lesquelles on branche nos petits appareils qui nous permettent d'avoir Internet à domicile, la télé à domicile. Pourquoi c'est à l'intérieur des domiciles ? Pourquoi ces prises-là sont dans les espaces domestiques ? Là, c'est la pénétration de l'économie des médias dans la vie quotidienne. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a un chez-soi, une demeure? J'ai évidemment pas les réponses. Évidemment, ça me dépasse complètement. Tout ce que je peux faire, c'est nous, enfin, dire quelque chose qui viendrait nous rappeler qu'il faut penser à ces choses-là. Et qu'il y avait d'autres organisations techniques possibles, plus collectives, par exemple, non pas les boîtiers individuels, mais des boîtiers collectifs. Et une autre distribution de ces objets-là, un autre emplacement de ces objets-là, très concrètement, dans les bâtiments.
Ce que font des gens sur les histoires d'antennes pour que l'édifice circule pour...
En tout cas, ça mérite qu'on en discute encore. Voilà. Et que si c'est comme ça, que les choses sont, c'est pas par une nécessité technique, c'est en raison d'une économie en dernière analyse despotique. C'est ça que j'essaye de dire. Alors continue sur la question.
Dans la référence à la place dans la demeure, tu donnes comme piste le joug qui donne à chacun une place sous l'attelage.
Alors le joug, je coupe là aussi, le joug dans le texte d'Aristote, moi je le lis. Alors, parce qu'on dit le joug, c'est pas brillant, mais c'est pour ça que j'ai rappelé la phrase de Frédéric Douglas, ou même la thèse d'Aurélien Berland, mais la phrase de Douglas qui dit « on ne peut pas vouloir l'océan sans les tempêtes ». Alors, le joug, on pourrait dire être courbé sous le joug. Mais ça veut dire, je pense, c'est une métaphore pour dire qu'il y a des tâches à accomplir qu'on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas se soustraire. Par exemple, s'occuper des enfants tant qu'ils ne sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes. Voilà, on ne peut pas se soustraire. Alors, c'est une obligation. Je pense que c'est ce que Simone Veil aurait appelé une obligation. Mais dans cette obligation, qui est au fond une obligation existentielle, dans la métaphore du joug chez Aristote, ce que ça veut dire, c'est que les deux qui composent l'attelage tirent autant l'un que l'autre l'attelage dans la direction. Et forcément, cet attelage va dans une direction qui est produite par les deux. Voilà.
Alors, dans la référence à la place dans la demeure, tu donnes comme piste le joug qui donne à chacun une place sous l'attelage, et comme à chaque bloc une place sous l'attelage, comme si c'était déjà structuré.
Oui.
Mais la citation de Sevré dit que la dynamique progressiste permet de créer des places. Est-ce toujours un va-et-vient entre les deux? La notion de place naturelle a-t-elle un sens pour toi, et celle de place antinaturelle?
En fait, ce que je peux répondre là, comme ça, il va falloir que je revienne sur cette question, mais c'est que la, je dirais, il peut pas y avoir de place naturelle pour les opérations humaines, puisque ces opérations ne sont pas naturelles, elles sont techniques, peut-être on peut dire le mot nature est une façon de nommer un ensemble de choses qui ont une place par nature, voilà, qui était d'ailleurs dans les logiques de pensée de l'Antiquité, hein, les choses ont une place par nature, etc. Mais dès qu'il y a de la technique, il y a un bouleversement de ça, c'est-à-dire il y a irruption d'une chose qui n'était pas déjà dans la nature. C'est même la définition de la technique qu'on trouve même chez Aristote, c'est celle-là. C'est pas antinaturel, mais c'était pas dans les productions de la nature. Donc c'est ça la technique, c'est ce qui fait venir au monde quelque chose qui n'est pas de l'ordre, je sais pas si comment dire ça, inné ou premier du monde. Et alors il faut qu'il y ait une place pour ça. Et c'est ça, une des tâches de l'économie au sens premier du terme, je pense que c'est ça que je trouve quand je lis Xénophon ou Aristote ou d'autres ou quelques autres textes, c'est que l'idée de l'économie à ce moment-là, c'est pas de faire circuler des richesses, c'est pas de produire des plus-values, c'est pas, enfin, tout ce à quoi nous associons volontiers le mot économie aujourd'hui, mais c'est de trouver, et c'est pas nécessairement nomos, la distribution entre nous, les humains, c'est aussi l'emplacement des choses qui n'ont pas de place naturelle. Quel est le meilleur emplacement de choses qui ne sont pas naturellement données et qui sont des objets techniques? Voilà. Je sais pas si ça répond à la question de Yves, mais ça doit quand même être un peu dans le sens de la réponse.
Donc ici c'est une très mauvaise place. Ouais.
C'est vraiment une toute petite question, mais oui. Ça m'a, la remarque que faisait Cécile sur le rapport entre économie et simplement oikos, en fait, la demeure, c'est en fait nomos, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça nomos,
ouais.
Nomos, ça peut. Alors je le dis en passant, ça peut être. Oh, c'est pénible.
Oui.
Distribution, partage, etc. On traduit souvent par loi, mais en fait, c'est pas forcément le sens. C'est pas la loi qui autorise ou qui interdit. C'est la composition. Pardon.
La loi qui règle.
La loi qui règle, qui distribue, qui met. Alors ça peut être lié à la notion de place, parce que ça veut dire qui distribuer, ça veut dire envoyer une chose par ici plutôt que par là. Et au bout du compte, la chose trouve sa place, ou si c'est sa place là plutôt que ici, ou ici plutôt que là, etc. Donc ça serait ça le mot nomos. Et donc si on dit qu'il y a une économie domestique, qu'est-ce qui revient de faire à la femme, qu'est-ce qui revient de faire à l'homme, ça serait une façon de concrétiser la signification du mot nomos.
D'ailleurs, juste, mais domestique en soi, est-ce que c'est pas aussi latin?
Si, c'est latin.
Ouais, donc, de même que domaine,
oui.
C'est-à-dire, il y a une proximité ou pas, enfin, entre,
alors, ça...
pas, enfin, dans la langue, en tout cas, ça sonne.
Ben c'est des mots c'est des mots sur lesquels il faudrait employer avec prudence, hein. Dominus, donc c'est le maître de maison, ça donne domaine mais aussi demeure,
mais domestique, ça
donne aussi domestique, ça vient.
Non, mais sur cette...
Moi, je pense que enfin, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Je connais des textes, bien entendu, mais à mon avis, pas assez. Je pense que la critique du patriarcat, il serait plus juste de l'adresser aux Romains qu'aux Grecs. Je pense, quand je lis, moi je l'ai dit ce soir, quand je lis Aristote ou quand je lis Xénophon, je suis. Et que je les lis, et puisque je peux le faire, pas dans les traductions. Je suis sidéré par. Il y a des phrases. Là, je n'ai même pas pu les faire rentrer dans la séance ce soir, parce que je les ai lues finalement trop récemment, des phrases incroyables de Xénophon. Je peux dire. Il faut demeurer la demeure. Quoi. Le verbe répète le nom. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut. Je pense qu'il veut dire qu'il faut augmenter la place de ce pourquoi le mot demeure conviendrait dans la vie des humains. Donc c'est pas une pratique de, c'est pas une phrase qui se prononce pour le pouvoir domestique, c'est pas une phrase qui se prononce pour l'enrichissement, etc. Bon, je pense que la critique du dominus, quoi, du maître de maison, donc du droit romain, est probablement beaucoup plus patriarcale que ne l'était la société grecque.
Oui, mais c'était le sens de ma domestique, et peut-être c'est pour ça qu'on associe le domestique à un rapport de pouvoir quand même, parce que peut-être que ça vient de cette tradition-là aussi, quoi. Comme on dit, le domestique, en fait.
Oui, de la tradition latine.
Oui, c'est oui, ça que je voulais oui. dire. Qui exclut du coup l'idée grecque de demain,
oui.
C'est en ce sens-là.
Oui.
Alors, ici,
t'en as
répondu, merci.
Oui.
Merci.
Ah, d'accord.
Alors, moi, j'avais une question, mais je ne sais pas si tu as le courage de parler.
Si, vas-y.
Tu es revenu en note de bas de page sur la traduction du mot gender qui a estompé la différence entre genre.
J'aurais pas dû.
Entre genre et sexe. Et Ivan Illich, lui, il fait un
une évolution en fait depuis, enfin, je le dis vite, une économie domestique ou un partage des tâches qui serait, qu'il appelle le genre vernaculaire, une évolution vers le principe ou la logique des sexes.
Des sexes
hein, qui succéderait à l'organisation des genres. Et la logique des sexes, elle irait dans le sens d'une, d'une indistinction entre les êtres qui serait mis à concurrence pour la place qui aurait la plus de valeur. Mais compte tenu du sous-titre de ton livre que tu as cité en début de l'un à l'autre autour sur la question sexuelle, je te demande si tu as fait la même critique de la logique sexuelle qu'Ivan Illich.
Non, je comprends pas. Je comprends pas ce que tu me dis, d'Ivan Illich. Je comprends pas ça. Je pense que c'est une erreur. Ben c'est pas. Je crois que je comprends ce que veut mettre en question Ivan Illich, mais pas le mot avec lequel il le fait. Moi, je dirais que je pense à dans l'autre sens. Voilà. Que la disparition du mot sexe. Dans cette affaire est une façon d'augmenter les logiques concurrentielles. Genre est un mot qui conviendra beaucoup mieux au monde de la concurrence que le mot sexe. Je n'arrive pas à penser le sexe au singulier. Voilà. Ça me paraît impossible. Pour genre, on peut justement, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire dire un genre équivaut à un autre genre. Ils sont remplaçables. Donc si il y a matière à faire la critique que je comprends dans ce que tu dis, que dit Ivan Illich, moi je nommerais la critique dans l'autre sens.
Et lui effectivement emploie le mot sexe toujours au singulier.
Oui, ben, oui.
Encore une toute petite question.
Il faut du deux pour faire un enfant, même si on le fait plus par les voies dites naturelles. Je vois pas comment on sortira de ça.
Il y aura peut-être des voix.
Il y aura peut-être
des voix pour ça. Des bifurcations. Question. Non, je plaisante.
Quand vous distinguez le fait de penser par le commencement plutôt que par l'origine. Je me demandais si ça pouvait se lier à que je connais très très mal, mais qui me semble que Derrida critique aussi de l'origine vis-à-vis du langage ou de la représentation ou finalement de la technique en fait.
Donc finalement de la technique.
Oui, finalement. Les questions, dire que le langage ou la représentation n'aurait pas d'origine. Enfin, je ne vais pas réussir à être claire, mais j'ai l'impression que.
Si je comprends un truc.
Que la mise en avant de l'idée de commencement, c'est une position aussi pour la technique que vous proposez.
Oui.
Et que donc finalement, critiquer l'origine dans quelque chose comme le langage ou la représentation, c'est comme le critiquer pour la technique, pour l'idée de technique.
Oui. En fait, je pense que chez Derrida, la critique de l'origine est liée à la montée en valeur d'une expression qui est le toujours déjà. C'est toujours déjà ça ne vient pas vraiment de quelque part, mais c'est toujours déjà c'est toujours déjà là. En tout cas, moi, oui. Donc c'est ce que j'ai dit à un moment sûrement de mon exposé qui n'était pas clair parce que soit j'étais fatigué, soit je craignais d'être long et de vous ennuyer. Je pense, je vais le dire comme ça, quand même, après quelques réflexions, qu'il y a des commencements en technique, qui seraient par exemple ce que me conduirait à discuter avec quelqu'un que j'aime beaucoup, comme Michel Guérin, ou si je pouvais, mais maintenant c'est plus possible, peut-être le Roi Courant. Que d'ailleurs, Michel Guérin cite énormément. Simon, non, c'est peut-être un peu différent. Faudrait regarder. Il nous faudrait des travaux fins de ça. avec cette question-là. Est-ce que la notion de commencement a un sens dans la conception de la technique chez Simon? Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui ont commencé techniquement. Par exemple, la photographie. On peut dire la caméra obscura. Il y a des choses de la photographie qui n'ont pas commencé avec Nietzsche et Daguerre. Il y a quand même quelque chose qui a commencé avec la photographie. C'est ce que Benjamin appelait une époque. L'époque, c'est vous avez un balancier de vieilles horloges. Et l'époque dans le mouvement du balancier, c'est quand le balancier atteint l'apogée de son mouvement dans un sens et qu'il part dans l'autre sens, il bifurque. Époque. Donc il y a des inventions techniques qui ont fait bifurquer l'humanité. La roue, l'invention de la roue, j'en sais rien. Enfin, on peut trouver. Et qui fait qu'après, ça ne peut plus être comme avant.
Le commencement, ce n'est pas pareil que toujours déjà.
Non, le commencement, justement, ce n'est pas pareil que le toujours déjà.
Générique.
Je peux dire pour ceux qui sont loin que nous sommes dans une petite pièce et qu'autour de nous, dans l'autre pièce, ça chante. Et ça démotive un peu l'attention.
C'est générique.
Et donc, de toute façon, il est tard. Peut-être qu'on arrête, non? Vous avez une question? Alors, merci à tous pour votre attention. Et je salue ceux et celles qui sont au loin.